Bonjour à tous. Abondant en série ce matin sur le Tour de France, la coqueluche du Tour, Mathieu Van Der Poel renonce, tout comme Primoz Roglic, deuxième du Tour l'an dernier. Un incendie monstre à Chypre, 4 personnes sont mortes. Il s'agit du pire incendie sur l'île depuis des décennies, Claude Guibal dans un instant. Une présidente et un président par intérim au Rassemblement National. Marine Le Pen, réélue à la tête du parti, sera remplacée par Jordan Bardella le temps de la campagne présidentielle. Dans ce journal également, 96 médecins demandent la vaccination obligatoire pour les soignants et nous recevrons Philippe Mérieux, chercheur en pédagogie, alors que les vacances scolaires vont débuter après une année bouleversée par le coronavirus. Le temps plus frais avec un nouvel épisode de pluie et d'orage. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Alors que l'ouest du Canada continue d'être consumé par les feux et la chaleur, un autre incendie immense ravage Chypre. 4 personnes sont mortes, les autorités et les secours semblent dépassés et parle de tragédie. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Chypre fait face depuis une semaine à une vague de chaleur.
Oui, et les évacuations se poursuivent aujourd'hui, notamment à proximité de Larnaca, car c'est là qu'ont été retrouvés ce matin sur une route ces corps carbonisés. 4 personnes, 4 premières victimes connues de cette tragédie, alors que les vents continuent d'attiser les flammes. De mémoire de Chypriote, depuis la partition de l'île en 1974, on n'avait pas connu de tels incendies. Le feu est parti samedi depuis le nord de Limassol, puis il a embrasé les pentes du massif de Troodos. Depuis avril, il n'a quasiment pas plu à Chypre. Et ces derniers jours, vous le disiez, les températures caniculaires au-dessus de 40 degrés ont rendu tout l'environnement fortement inflammable. Bombardiers d'eau, hélicoptères survolent la petite île. Le président Nikos Anastasiades s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Hier, Chypre a demandé l'aide des pays de l'Union européenne. La Grèce, l'Italie ont immédiatement répondu dans le cadre du mécanisme d'urgence européenne en envoyant 4 canadairs. Israël a également annoncé l'envoi de renforts des canadairs, des retardateurs de flammes. Le président chypriote l'a répété, c'est une des plus grandes tragédies de l'histoire récente de ce pays.
Tout se joue dans les 15 jours qui viennent face à l'épidémie de coronavirus et au redoutable variant Delta. C'est maintenant qu'il faut se faire vacciner selon Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, maintenant pour être protégé à la rentrée et éviter une quatrième vague. Le gouvernement tente de relancer la vaccination avec comme interrogation jusqu'où imposer la vaccination obligatoire. 96 médecins apportent une réponse dans une tribune publiée aujourd'hui dans le journal du dimanche. Ils demandent que la vaccination soit obligatoire pour les soignants. Cela va de soi, selon André Grimaldi, professeur émérite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et fondateur du collectif Interhôpitaux.
Il y a eu 30 000 Covid qui ont été attrapés à l'hôpital, et y compris les personnels soignants, hein, plus de 26 000. Aujourd'hui, il y a un vaccin qui est disponible. Dans les règles de la profession, il y a d'abord de ne pas nuire. Hein. Les patients sont des patients par nature vulnérables et qui confient leur santé à un professionnel. Et ce professionnel, bien sûr, doit assurer la sécurité de ses patients. Donc, être vacciné va de soi quand on est un professionnel de santé. La vie en société est faite de règles. C'est des règles communes pour pouvoir vivre ensemble. Et ces règles, elles nous aident les uns et les autres. Moi, comme tout le monde, j'ai envie de transgresser, j'ai envie de ma liberté, etc. Et je suis convaincu, ça s'est déjà passé pour les 11 vaccinations obligatoires pour les enfants, que si on dit que c'est obligatoire, avec une discussion préalable, etc., eh bien, la majorité, la grande majorité de ceux qui sont réticents le feront.
Le professeur Grimaldi avec Augustin Arrivé, un sale virus et un variant Delta que les élèves vont tenter d'oublier durant les vacances scolaires. Une parenthèse de 2 mois, très attendue, invité de ce journal. Philippe Mérieux, professeur honoraire et chercheur en pédagogie. Bonjour Philippe Mérieux.
Bonjour.
Les vacances scolaires débutent donc après-demain mardi jusqu'au 2 septembre. Il était temps, Philippe Mérieux, après 2 années scolaires totalement chaotiques et où certains élèves ont pu paraître totalement perdus.
Oui, il est temps que les vacances arrivent et qu'on puisse retrouver un équilibre de vie. Nous disposons d'études qui montrent actuellement que quand même beaucoup d'enfants ont été, sinon traumatisés, du moins bousculés par cette crise sanitaire et par les conditions de la scolarité cette année. Je pense que pour reprendre l'année prochaine dans de bonnes conditions, il faut qu'ils passent de belles vacances.
C'est quoi des belles vacances? Ne rien faire en juillet et en août, ou au contraire essayer de rattraper le retard scolaire et garder un pied dans l'éducation?
Écoutez, c'est un petit peu difficile. c'est à la fois tout cela. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien très fort entre l'équilibre psychique et puis les apprentissages cognitifs. Quelqu'un qui est en déséquilibre psychique et qui est un peu inquiet, traumatisé, angoissé, est quelqu'un qui aura du mal à apprendre. Et beaucoup d'enfants sont aujourd'hui en déséquilibre psychique. Ils ont vécu une période un peu traumatique pour eux quand même. Et donc, il faut retrouver cet équilibre psychique, un cadre sécure, une ambiance relativement sereine. Et en même temps, dans cet équilibre psychique, il faut entretenir la curiosité, le désir d'apprendre, il faut lire, il faut discuter, il faut bricoler, il faut faire des tas de choses qui permettent d'avoir une activité intellectuelle, une activité cognitive qui soit constructive et positive.
Le plus difficile, c'est peut-être pour les écoliers qui passent du primaire au collège. Est-ce que c'est la transition la plus délicate sur laquelle il faut faire peut-être le plus attention pour les parents ?
Oui, sans aucun doute. C'est la transition qui marque sans doute la rupture la plus forte. Je crois qu'il faut là aussi proposer aux enfants un cadre serein, sécurisé, leur dire que c'est pas la même école, mais c'est une école, qu'on va continuer quand même avec les mêmes principes, et puis qu'on va l'accueillir en sixième. Les sixièmes sont en général très bien accueillis, qu'on va l'accompagner et qu'il aura auprès de lui des adultes qui vont veiller sur lui. Je crois que les enfants ont vraiment besoin de sentir que les adultes veillent sur eux. Ils ont vécu une période où la mort, les masques, tout cela a pu les inquiéter profondément. Nous avons des études qui montrent qu'ils ont pris du poids, qu'ils ont perdu un certain nombre de facultés cognitives. Ils ont subi cette crise plus que nous ne le pensons, je pense, et ils ont vraiment besoin d'adultes solides et sereins à leur côté.
Alors, il y a une question également importante qui est le décrochage scolaire. Est-ce que les retards pourront être rattrapés, selon vous, dans les semaines qui viennent et à partir de la rentrée ?
Oui, alors il faut relativiser cette question. Bien sûr, il y a des retards, mais d'une part, ces retards ont affecté presque tous les élèves. Donc, les écarts ne se sont pas, il faut l'espérer, trop agrandis, quoi. Les études semblent montrer le contraire, mais je pense que les professeurs seront attentifs à ce que les écarts soient comblés et à ce qu'il y ait un accueil et un accompagnement personnalisé. Je pense qu'il faudra qu'au cours de l'année prochaine, nos enfants soient bien accompagnés sur le plan de la scolarité et qu'ils aient une année la plus sereine possible dans des conditions qui soient les plus équilibrées possibles.
Philippe Mérieux, quelles leçons ou enseignements tirez-vous de ces mois de crise dans les classes ?
Ah, le fait que nous n'avons peut-être pas suffisamment anticipé sur la durée, que nous avons probablement géré trop au coup par coup, que pour les enfants, le coup par coup était quelque chose de difficile à vivre, et que par rapport à cela, nous avons sans doute besoin, nous autres adultes, que nous soyons parents, que nous soyons administrateurs de l'éducation nationale, professeurs, à nous projeter un petit peu plus loin, à lisser les choses d'une manière un peu plus grande pour éviter de soumettre nos enfants à des à-coups qui les déstabilisent quand même beaucoup.
Philippe Mérieux, professeur honoraire, chercheur en pédagogie et auteur de Ce que l'école peut encore pour la démocratie aux éditions Autrement, merci à vous. Et ce variant Delta qui ternit également les espoirs de reprise du tourisme en Europe. Dans certains pays, les restrictions encore en vigueur risquent de peser sur la saison. En France, en revanche, le secteur du tourisme est plutôt optimiste. Oui, le tourisme reprend avec notamment l'un de ses symboles, le retour des paquebots de croisière. Deux d'entre eux partiront aujourd'hui de Marseille pour la première fois depuis 16 mois. À Marseille, le secteur de la croisière rapporte chaque année 310 millions d'euros, génère 2000 emplois. Un redémarrage très attendu, mais sous haute surveillance. Philippe Lefebvre à Marseille, à l'embarquement avec les premiers passagers.
En fin d'après-midi, le MSC Seaside et le Costa Smeralda quitteront le port de Marseille pour des croisières d'une semaine en Méditerranée. Un moment symbolique à la fois sur le port de la cité phocéenne et pour les compagnies de croisière, car depuis mars 2020, pratiquement aucun bateau n'avait fait escale et embarqué des passagers ici. Les passagers, il y en aura autour de 3000 dans chaque navire, soit la moitié de leur capacité habituelle. Tous les touristes devront montrer patte blanche, passe vaccinale plus test antigénique avant l'embarquement et ensuite contrôle quotidien de température. Et bien entendu, pour le secteur des croisières, l'enjeu est énorme car l'ensemble des compagnies auraient perdu durant les 16 derniers mois de 64 à 70 milliards de dollars au niveau mondial. Mais visiblement, les deux poids lourds du secteur sont optimistes quant à la reprise puisqu'aucun projet de construction de nouveaux navires sur les chantiers français, finlandais ou italiens, là où sont construits les géants des mers, n'a été stoppé.
Philippe Lefebvre, merci. Sans surprise, Marine Le Pen réélue à la tête du Rassemblement National lors du congrès du parti ce week-end à Perpignan. Marine Le Pen, seule candidate, obtient un score très flatteur, plus de 98% des voix. Mais c'est Jordan Bardella qui va assurer la présidence du Rassemblement National. Marine Le Pen va quitter temporairement ses fonctions de présidente pour se consacrer à la présidentielle. Sur place à Perpignan, Élodie Forêt.
Oui, le jeune eurodéputé a été adoubé ce matin par les adhérents.
Numéro 1, Jordan Bardella.
Le mieux élu au Conseil national, le parlement du parti, devant le maire de Perpignan, Louis Alliot. Dès lors, il n'y avait plus beaucoup de suspense. Appuyé par Marine Le Pen et consacré par les militants, il est désigné premier vice-président.
Jordan Bardella, membre du bureau exécutif. Premier vice-président.
Selon les statuts, c'est donc lui qui assurera l'intérim. Le parti, qui une semaine après la défaite, se met donc en ordre de marche pour 2022, avec derrière Jordan Bardella un bureau exécutif élargi de 10 à 15 membres, féminisé.
40% de femmes sont présentes au Conseil national. Eh bien, cette féminisation trouvera son expression non seulement au bureau national, mais également au bureau exécutif, qui voit pour la première fois de son histoire entrer trois femmes.
Comme une réponse à Jean-Marie Le Pen qui réclamait cette semaine davantage de virilité. Dernière nouveauté, l'arrivée des chefs de parti alliés dans cette instance où se prennent les décisions. Thierry Mariani pour la droite populaire, Jean-Philippe Tanguy de l'Avenir français, Hervé Juvin pour le parti localiste. Le message ici est clair, pas question de renoncer à la stratégie d'ouverture. En privé, Marine Le Pen balaie les critiques. Ceux qui prônent un retour aux fondamentaux ont passé trois ans dans une grotte.
Élodie Forêt à Perpignan. Le Tour de France, 9e étape aujourd'hui entre Cluses et Tignes et ses 21 km d'ascension. Et on a appris ce matin les abandons de Primoz Roglic, 2e du Tour l'an dernier, et de la coqueluche du Tour de France, maillot jaune pendant 6 jours, Mathieu Van Der Poel. Il renonce pour préparer les Jeux de Tokyo en VTT. Mathieu Van Der Poel.
Oui, on a pris la décision avec l'équipe ce matin de ne pas prendre le départ. Et c'était pas une décision facile, mais les Jeux Olympiques, c'est déjà un rêve de moi pendant 4 ans. Et ouais, je pense que je ne vais pas avoir aucun regret après ces Jeux Olympiques. C'était incroyable, c'était mon premier grand tour. On gagne 2 étapes avec l'équipe, donc j'ai porté le maillot jaune pendant quelques journées. C'était juste incroyable. Ouais, le maillot jaune... Comme j'ai fait maintenant, c'est parfait, mais jusqu'à Paris, c'est juste pas réaliste. Je suis pas un coureur qui va pour le classement général. Et j'aime mieux faire la course à ma manière.
En direct dans les Alpes et sur la Moto France Inter, on retrouve Nicolas Perronnet. Bonjour Nicolas Perronnet. Alors Roglic, Van Der Poel, cela fait 2 abandons de taille ce matin.
Ouais, 2 grands noms, c'est vrai, qui s'en vont, mais pas pour les mêmes raisons, puisque même si c'était... on va dire plus ou moins prévu, ou en tout cas prévisible pour Mathieu Van Der Poel. Ça l'était beaucoup moins pour Primoz Roglic, en tout cas au départ de ce Tour de France. Le Slovène, dauphin de Pogacar l'an dernier, paye les conséquences de sa lourde chute lors de la 3e étape. Il a passé depuis les étapes couvert de pansements, une grande souffrance. Et puis hier, ça a sans doute été le coup de grâce. 35 minutes de débours lors de la première étape des Alpes. Ça a été trop compliqué, trop dur ce matin pour Primoz Roglic, qui a donc décidé d'abandonner le Tour de France pour, dit-il, lui aussi se tourner vers d'autres objectifs, sans doute la Vuelta. Il ne voyait plus trop quel sens à donner à sa participation sur la grande boucle, mais c'est vrai que les abandons en tout cas sont ceux de grands noms du Tour ce matin. Primoz Roglic, Mathieu Van Der Poel.
Alors Nicolas Perronnet, est-ce que ce Tour de France, alors qu'on va disputer la 9e étape, a déjà perdu tout suspense?
Alors pour le classement général, avec le coup de maître de Tadej Pogacar hier, on serait tenté de dire que oui, tant le Slovène, le tenant du titre, a écrasé la concurrence. C'est vrai que quand on voit un Geraint Thomas à 36 minutes au général, un Richie Porte, le récent vainqueur du Critérium du Dauphiné, à 22 minutes, on voit mal qui pourrait désormais venir ennuyer Tadej Pogacar. Du suspense en revanche pour la bataille pour le podium, hein, puisque ses principaux concurrents, si l'on excepte Wout Van Aert qui n'est pas sur son terrain en haute montagne, eh bien ses principaux concurrents sont tous pointés à plus de 4 minutes, donc la bataille pour le podium. Et puis évidemment, sur un tour fou depuis le début, eh bien tout peut se passer, y compris pour Tadej Pogacar.
Nicolas Perronnet avec Alexandre Abergel. Merci à vous deux. Dans un instant, la météo.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Golinski.
Les averses, parfois accompagnées d'orages, arrivées par l'océan, circulent rapidement vers les régions les plus orientales, laissant encore traîner cet après-midi des averses des Ardennes au Vosges et de la Franche-Comté aux Alpes, avec toujours la possibilité d'orages. La Corse est restée le plus souvent à l'écart du temps instable, et puis cet après-midi, les conditions vont nettement s'améliorer sur les régions de la moitié ouest, également dans le golfe du Lion, avec la levée de la tramontane vers 70 km à l'heure. Le tout dans les températures en baisse, entre 2 et 4 degrés en général par rapport à hier, jusqu'à 6 sur la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Demain sera une journée pluvieuse, du nord de la Loire au quart nord-est, plus ensoleillée dans la partie sud. En soirée, le vent va se renforcer sur la pointe ouest, annonçant une journée de mardi agitée dans le couloir de la Manche, avec des rafales de sud-ouest proches de 100 km à l'heure sur le littoral et de 80 dans les terres.
Jean-Michel Golinski de Météo France.